Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut à tous, c'est Julien Pereira et bienvenue dans le FC Stream Team en compagnie de Maxime Dupuis qui est déjà mort de rire. Il y a peut-être une raison.
Oui, bah non, mais c'est quand je prépare une connerie et tu ne sais pas laquelle
oui,
c'est.
Exactement.
Donc j'y vais, mais je sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que tu sais ce que c'est ça ?
C'est l'alerte enlèvement.
Voilà, parce que justement, je me demande où est passé Martin Mosnier, qui n'est pas là. Et je sais pas si je dois en rire, me réjouir, parce qu'en fait, pour faire simple, il y a 3 semaines, il avait mis ma tête sur le bio. Il y a 2 semaines, il avait disparu. Et il est toujours pas revenu.
Et bizarrement, il manque à personne.
Alors, ça c'est une chose. Peut-être à sa famille.
Peut-être.
Et je vais te dire un truc, il entrerait dans la salle là, je suis pas sûr que je le reconnaîtrais tellement ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
Ouais, et puis il risque d'avoir pris un petit peu de calories.
Ça c'est possible, mais en tout cas, grosse disparition, voilà. Donc encore une fois, c'est une leçon, hein. T'as voulu me faire disparaître Martin, c'est toi qui as disparu du paysage. Donc écoute, je sais pas quand et où on te reverra, mais...
Peut-être jamais. C'est tout ce qu'on nous souhaite.
On est inquiet, tu vois, on a lancé l'alerte enlèvement, on va voir ta tronche sur toutes les télés de France et de Navarre, est-ce que ça suffira à te faire revenir ? Est-ce que ta tête rentrera dans le cadre habituel de la photo, je ne sais pas.
Déjà qu'habituellement.
Mais en tout cas, voilà, on est un peu inquiet. On est un peu inquiet aussi pour tes arguments, parce que tu es loin de nous depuis 3-4 semaines, donc on a peur de la fraîcheur de ceci quand tu reviendras. Et si tu as suivi de près les choses du football.
J'ai un doute. Déjà que d'habitude.
Voilà, donc écoute. Mais bon, tu vois, c'est plutôt classe, même si t'es pas là, ça tourne quand même autour de toi. Donc,
Ouais. Bon, pour ça, qui va lui permettre de. Passer un peu plus simplement les portes. On peut y aller ?
On y va. Comment vas-tu, Julien ?
Écoute, je vais très bien. Je remarque qu'il y a une personne qui est toujours là.
Exactement.
Quand il faut combler les vides. C'est moi. Et oui, il y a une personne dans cette rédaction qui ne prend jamais de vacances.
Une émission de la semaine dernière, la spéciale Mbappé. Voilà. Mais alors, pour tout dire, c'est vrai que alors, vous avez longtemps parlé de cette histoire, du fait qu'on n'était pas là la semaine où tout se décantait. Mais en fait, il va y avoir 10 000 occasions d'en refaire, parce que je suis à peu près prêt à vous parier que d'ici un ou deux mois, il y aura une tentative de surenchère du PSG pour tenter de le garder. Mais évidemment qu'ils vont essayer, c'est pas possible. Et puis, si t'es
alors qu'il a demandé à ne pas le faire.
Oui, mais si t'es un bon patron de club, tu dis, allez, Kylian, t'es sûr ? T'es vraiment sûr ? T'es sûr ? Ils vont tenter une ou deux fois. Puis il va y avoir un mini-épisode avec le Real Madrid, voilà, donc on aura le temps d'en reparler. Je suis pas...
Prédiction de Maxime Dupuis, voilà. J'espère que vous l'avez noté.
Et dernière chose, parce que moi je suis très honnête avec ce que je dis, j'avais dit que je pensais qu'il n'annoncerait rien en février, que ça me paraissait délirant.
Officiellement, il n'a toujours rien annoncé.
Techniquement, j'ai pas tort, il n'a rien annoncé. Voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà, il va quitter le Paris Saint-Germain, on aura le temps d'en reparler et Martin aura le temps de vous redire ce qu'il pense si jamais Martin un jour retrouve le chemin d'Eurosport.
Maxime, on ne va pas parler de Kylian Mbappé cette semaine, on va parler de l'Olympique de Marseille. Ce sera notre premier sujet, victoire contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa jeudi. Quels sont maintenant les objectifs de Gasset ? L'OM peut-il viser le top 4 comme c'était annoncé, comme c'était voulu en début de saison ? On en parlera dans notre premier sujet.
Deuxième sujet, on fera le lien avec les Coupes d'Europe. Marseille s'est qualifié jeudi soir face au Shakhtar Donetsk. Donc, étant en 8e de finale, vous avez sans doute vu l'adversaire, mais sinon on vous en parlera après. Et en fait, ça fait qu'on a 3 clubs sur 6 en 8e de finale de Coupe d'Europe. Est-ce que la France est finalement à sa place ?
Troisième sujet, on parlera de l'arbitrage. L'arbitrage qui est un sujet brûlant ces derniers jours. Et on a une nouvelle information qui nous a été délivrée par l'équipe cette semaine. A priori, on s'oriente vers une sonorisation des arbitres. Alors, il y a une première phase de test en D1 Arkema au printemps. L'objectif étant évidemment de l'élargir à beaucoup plus grande échelle, y compris en Ligue 1. On en parlera. On se posera la question de savoir si c'est une bonne idée.
La dernière fois que vous avez suivi cette émission, Gennaro Gattuso était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. En moins de 7 jours, il s'est passé énormément de choses du côté de la Canebière, puisque Jean-Louis Gasset est désormais le coach principal de l'OM. Si vous m'aviez dit ça, ne serait-ce qu'il y a une semaine, je ne sais pas si j'aurais cru, mais en tout cas, tel est le cas. L'OM a un nouvel entraîneur. L'OM est en huitième de finale, de la Ligue Europa. L'OM va un petit peu mieux. Mais l'OM est évidemment toujours loin du compte. Une défaite à Brest dimanche dernier et surtout 9e place en championnat. Alors maintenant, la question, elle est simple. Jean-Louis Gasset est arrivé. A priori, ça n'ira pas au-delà de la saison. Mais est-ce que Jean-Louis Gasset est un magicien? Est-ce que Jean-Louis Gasset peut ramener l'OM sur les hauteurs du championnat et techniquement viser le top 4 et donc la Ligue des Champions?
Ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà trouvé quelque chose sur le plan psychologique, le plan mental. On l'a vu lors du match face au Shakhtar. C'est pour ça qu'il est venu. C'est aussi ce qu'il avait annoncé. Il avait très bien dit, et à juste titre, je pense, qu'à 48 heures, il ne pourrait pas faire grand-chose de plus que d'essayer de réveiller ses joueurs. Ça a plutôt bien fonctionné jeudi. Il faudra confirmation dimanche. Ce qui est sûr aussi, c'est que ces ressorts-là, ils ne sont pas infinis et qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir jouer sur autre chose, peut-être un plan de jeu, peut-être un vrai collectif pour viser beaucoup plus haut parce que devant, il y a des équipes qui, même si elles n'avancent pas aussi vite qu'elles le devraient, sont quand même beaucoup plus structurées. Je pense à Lille, je pense à Lens, je pense à Rennes aussi, qui a une vraie dynamique en ce moment. Donc, ça me paraît compliqué, pas impossible. Ce qui est sûr, c'est aussi que l'effectif marseillais est largement fourni en qualité et en quantité pour viser beaucoup plus haut. Maintenant, Maxime, il y a quand même 9 points sur le 3e, l'OGC Nice. Il y a 8 points sur Lille, qui est 4e. C'est quand même pas négligeable.
Alors, 8 points, c'est marrant parce que l'OM est vraiment à la croisée des chemins. L'OM est aussi proche ou éloigné de la Ligue des Champions que l'OM est proche et éloigné du barrage. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de scénario catastrophe, mais techniquement, ils sont aussi proches du barragiste que de la 4e place et non de la Ligue des Champions. Jean-Louis Gasset a fait du bien, mais alors, lui, il a beaucoup répété le mental, parce qu'évidemment, il n'a pas le temps de travailler beaucoup sur le reste, mais truc tout bête, je pense qu'au-delà du mental, c'est d'avoir mis les joueurs en 3-5-2 et on avait vu que ça marchait mieux en fin d'année. On avait vu que, alors c'était face à des adversaires d'un calibre pas dingo non plus, mais n'empêche qu'on sentait qu'ils avaient plus de repères parce que c'était plus solidifiant, on va dire. Gattuso s'y était fait. Moi, je pense que Gattuso a abandonné le 4-3-5-2 au moment où il a abandonné finalement ses ambitions d'être entraîneur de l'Olympique de Marseille. Personne lui en veut, bizarrement, parce que je pense qu'il a été assez classe. Les joueurs lui en veulent pas. Il n'y avait pas un drame dans ce club. Où les joueurs, de toute façon, on en reparlera sûrement un petit peu après, ont quand même été un peu protégés, parce que c'est la direction qui a pris cher au début. Et puis Gattuso qui a tenté aussi de les protéger, même si des fois, j'avais un peu l'impression qu'il essayait de rééquilibrer les choses. Mais en tout cas, je pense que globalement, voilà, un petit coup de mental et un petit coup de 3-5-2, ça a fait du bien. Il reste 12 matchs en Ligue 1, 36 points prenable, c'est beaucoup et peu à la fois, surtout quand il y en a 8 à remonter sur la première place qui serait intéressante, parce qu'évidemment, s'il remonte jusqu'à la 5e, la 6e, il y a de la Coupe d'Europe. Mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'était pas l'objectif de début de saison et ce n'est pas l'objectif qui sied à un club comme l'OM qui repartirait encore dans une forme de reconstruction d'un peu plus loin, si c'est plus facile.
Et même financièrement, ce serait un enjeu, oui, voilà. C'est un enjeu, voilà, énorme, sachant qu'il y a un flou autour des droits télé, sachant qu'il y a eu des investissements assez importants qui ont été réalisés ces derniers temps, notamment sur le mercato. S'il n'y a pas de Ligue des Champions au bout une nouvelle fois, ça risque d'être un petit peu plus compliqué.
Au moins l'assurance, à défaut de connaître le prix des droits TV, moins CVC, il y aurait au moins la Ligue des Champions qui rapporterait un peu d'oseille dans le panier. C'est possible mathématiquement, on ne peut pas vous dire le contraire, mais moi mon problème c'est que finalement il y a trop d'équipes entre l'OM et la 4e place. C'est-à-dire qu'il y aurait une équipe, on peut penser que, imaginez, il y a juste Monaco. Monaco peut s'écrouler, d'ailleurs Monaco s'écroule, c'est imaginable. Mais le problème c'est vrai que Monaco, Lens et Rennes n'aillent pas plus vite que l'OM. Alors, je ne mets pas Reims parce que Reims est 8e à 1 point, donc on ne va pas compter à la rigueur. En fait, il faudrait que 4 équipes finalement ralentissent et mettent 8 points de moins que l'OM ou un peu moins. Ça me paraît quand même assez compliqué si on est très honnête. Maintenant, il y a une solution pour y arriver, c'est évidemment mieux jouer, mais surtout réussir le mois qui vient. Dimanche, c'est Montpellier. La semaine d'après, c'est Clermont. Et ensuite, c'est Nantes. C'est-à-dire que techniquement, ça peut faire 9 points quand on est l'OM. Et ça ressemble d'ailleurs à la série qu'il y avait eu juste avant Noël, où l'OM a commencé à se redresser avec le 3-5-2, mais aussi face à des adversaires comme ça, parce que ce n'est pas des adversaires très forts, donc la moindre des choses, c'est de prendre 9 points. Et au moins, en reprenant 9 points, l'OM se remettrait dans une situation à peu près correcte avant de jouer, évidemment, Rennes, le PSG, Lille et Nice. Là, évidemment, ce serait plus difficile pour la suite, mais en même temps, à un moment, il faut aussi battre les autres pour essayer de les dépasser. Donc en gros, je pense que la clé, elle se joue là au moins de rendre de l'espoir. Si l'OM se plante, ne serait-ce que prendre un point à Montpellier, c'est toujours un ralentissement. Si sur les 9 possibles, ils prennent que 6 points, pour moi, ce sera terminé parce qu'il y aura forcément une équipe ou deux qui avancera plus vite devant.
Il faut aussi tenir compte de la Coupe d'Europe pour les clubs qui sont devant l'OM. En l'occurrence, il n'y a que Lille. Alors, on exclut le PSG, évidemment, mais il n'y a que Lille qui va continuer son aventure européenne en plus de l'Olympique de Marseille. Et ça, ça peut compter aussi parce que la fraîcheur risque de jouer, notamment dans ce fameux sprint là de mi-mars, mi-avril, qui va être très important pour l'OM. Donc c'est un facteur, c'est un mauvais point pour l'OM parce que l'OM, lui, va continuer de jouer sur deux tableaux au moins jusqu'au prochain tour. Pareil, moi, je ne suis pas hyper convaincu. J'attends de voir effectivement les trois prochains matchs où l'OM doit absolument prendre 9 points. Et sur le jeu, honnêtement, je ne sais pas qu'attendre de Jean-Louis Gasset. C'est quasiment impossible. Là, ce qu'on a vu jeudi contre le Shakhtar, c'est du kick and rush à l'ancienne. Je crois que Paul Lopez n'avait jamais balancé autant de ballons longs depuis qu'il est arrivé à l'OM. Donc voilà, il faudra forcément de la progression parce que, mine de rien, avoir des idées de jeu et être capable de les appliquer, bah, ça offre quand même un petit peu plus de garanties plutôt que juste se baser sur l'agressivité, la rigueur, la concentration, etc.
Ça fait du bien d'avoir des longs ballons, moi j'aime bien. non mais en fait, en plus, tu le disais, pour la Coupe d'Europe, l'OM n'est pas dans une situation où il peut se dire « je lâche la Coupe d'Europe ». Parce que ils sont trop loin de la C1 pour se dire bon allez on va mettre un peu on va lever le pied un peu sur la C3 et puis en plus déjà c'est pas dans l'ADN de l'OM. L'OM généralement s'ils se font éliminer de Coupe d'Europe c'est qu'ils sont pas assez bons, donc globalement ils les jouent à fond. Il y a eu sous Sampaoli où il y a 2-3 fois des compos un peu baroques, on pouvait se dire bon là il a choisi le championnat, mais en gros c'est pas dans l'ADN du club. Donc voilà, donc ils sont dans cet entre-deux et comme tu l'as dit sur le jeu, moi je sais pas quoi attendre. Déjà, le recrutement, je reprends le début de saison. Moi, je suis incapable de dire en début de saison si l'OM a un recrutement top 3. Alors, sur le papier, on va se dire oui, parce qu'il y a eu Tudor, ça s'est bien passé, il y a des joueurs qui sont restés. Mais le problème, c'est que ce sont des joueurs, encore une fois, on est dans un recrutement maintenant qui est inconnu, bien souvent, avec des joueurs. Alors, il y a Aubameyang, mais est-ce que le Paris Aubameyang serait aussi bon que le Paris Sanchez? On n'en savait rien. Là, on voit Mumbanya qui vient d'arriver. J'ai l'impression qu'on c'est un peu le clone de Vitinha au niveau du jeu. Enfin, en gros, je suis pas sûr qu'il va apporter beaucoup plus. Déjà, là, au début, j'étais pas certain que cette équipe était au moins on pouvait imaginer autour du podium, mais un solide deuxième ou un solide troisième. Non, je n'en savais rien. Le début de saison a dit que non, pour plein de raisons bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, voilà. Donc, est-ce que Gasset est un magicien? Est-ce que Gasset va trouver la solution? Franchement, c'est je pense c'est un des trucs les plus difficiles à pronostiquer d'ici la fin de saison.
Et je pense que la direction de l'OM elle-même ne sait pas ce que vaut son équipe. Parce que quand on écoute la présentation, alors il y a eu 2 conférences de presse successives de présentation de Jean-Louis Gasset, à la fois la présentation puis l'avant-match du Shakhtar. Quand on lui pose la question des objectifs, il répond faire un bon parcours en Coupe d'Europe et remonter, faire mieux qu'une mauvaise 9e place en Ligue 1. Donc c'est pas hyper clair et ça montre quand même qu'il y a encore de gros doutes autour de cet effectif-là.
Ouais.
Et du niveau de certains joueurs.
Ouais. Et puis une fois, moi je le redis, je suis Unai, oui. Unai, c'est l'achat Coupe du Monde. À toutes les Coupes du Monde, il y a des mecs comme ça qui brillent et qui sont achetés. Alors, ça a coûté 10 millions, vous allez me dire. C'est pas dingue, mais c'est pas une paille non plus. Et Sarr, Ndiaye, quand vous achetez des joueurs de Championship, vous avez des joueurs de Championship. Enfin, à un moment, on a beau dire le Championship anglais, c'est fantastique, c'est sûrement le 5e championnat d'Europe, des fois on entend ça. Bah oui, ça reste des joueurs qui évoluent dans une antichambre et qui sont censés jouer un top 3 dans un club qui compte en France. Donc, il y a ce doute-là toujours autour de l'effectif. Il y a un bon point quand même, je trouve. C'était les tribunes.
Oui.
Parce qu'en fait, je trouve que les supporters, là, alors, ils ont bon équilibre.
On les a déjà vus lâcher pour moins que ça.
Ah oui, il y a eu des situations insurrectionnelles au Vélodrome. Moi, sur les 35 dernières années que je suis le foot, j'en ai vu 2-3. J'avais souvenir, c'est marrant, parce qu'il y a eu Marseille-Metz, et je me souvenais d'un Marseille-Metz pour les plus anciens, si vous vous souvenez, avec Barthez qui se fait expulser, je crois que c'est 94. Metz va gagner 3-0 et le match est complètement... c'est une ambiance insurrectionnelle dans les tribunes. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils mettent leur banderole, ils retournent leur banderole, comme ils ont dit, ok, bon, en gros, vous nous fatiguez, mais on va vous supporter. Et hier, il y a eu ça, au moment de l'égalisation notamment, et tout ça, où le public va être là. Donc, si le public joue son rôle comme ça, il y a quelque chose à espérer, mais on sent que c'est sur le film. En tout cas, j'aime bien, moi, cet état d'esprit du public, de dire, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, la direction, vous nous saoulez, McCourt, ça nous saoule, mais au moins, bon, on va essayer de ne pas noircir la situation plus qu'elle l'est aujourd'hui. Et je trouve que ce qui s'est passé hier dans les tribunes, il y avait un zéro à un moment, ça aurait pu être plus difficile. Avec Gattuso, ça aurait peut-être été plus difficile. Au moins, il y avait Gassé. Donc, encore une fois, je dis très bien, il faut que ça continue comme ça, évidemment, pour l'OM.
Avec la sortie aussi d'Aubameyang qui a été ovationné,
voilà.
Surtout pour son attitude, son pressing, etc. On a fait le tour sur l'OM, Maxime. Je pense qu'on peut passer à notre deuxième sujet qui concerne aussi, d'une certaine manière, l'Olympique de Marseille. C'est un petit bilan pré-8e. Alors, la Ligue des Champions, ça a déjà commencé. Pour les clubs français, on avait 6 candidats au départ. On en a perdu la moitié. Est-ce que pour toi c'est plutôt un bon bilan? Est-ce que c'est le bilan attendu ou est-ce que c'est un mauvais bilan?
Alors j'ai eu peur au 0 sur 4 soir, pour être tout à fait honnête. Et surtout, pour tout vous raconter, j'ai regardé Rennes, ensuite je suis passé par l'OM et en me disant que Lens était qualifié. Et j'ai reçu une petite notification d'Eurosport une demi-heure plus tard en voyant que Lens avait été renversé.
Et on était pas en retard.
Et que vous n'étiez pas en retard, voilà. Et donc, résultat, à ce moment-là, je crois que l'OM était virtuellement éliminé. Donc, je me dis, bon, ça va faire 0 sur 4. On est reparti comme l'année dernière. Ça ne va pas être bon. Et finalement, l'OM a sauvé les meubles. On a l'OM, on a Lille, on a le PSG qui a un pied et demi en quart final, même si avec le Paris Saint-Germain et les huitièmes de finale, on va se méfier. Mais en tout cas, non, moi, je pense que... En fait, plus que les clubs français à leur place, je pense que les clubs français ont simplement fait le boulot cette année. Et l'image de Lens, notamment en Ligue des Champions, 8 points dans un groupe comme ça... C'était pas mal, c'est autant de points que le PSG, il faut le rappeler. Ils ont fait le boulot aussi, pourquoi? Parce que, évidemment, l'indice UEFA globalement sauvé, ils devraient garder leur 5e place. Donc, on sent que c'était un moment, il fallait se remettre un peu d'aplomb. Et je dirais, alors, je ne sais pas si on peut construire là-dessus, c'est comme moi j'ai lu il y a quelques semaines où là, c'était reparti comme en 14, le top 5, j'en voyais partout. Non, on n'est toujours pas le top 5 européen, le championnat de France n'est toujours pas le 5e championnat d'Europe, mais au moins. Les choses vont dans le bon sens et avoir 3 clubs, il y a les Italiens je crois qui sont à 7 sur 7
oui.
Eux c'est un bilan exceptionnel mais c'est pas c'est l'année dernière je crois qu'ils avaient calé 5 clubs en demi-finale donc voilà eux ils sont partis plutôt bien. Je trouve que voilà, c'est assez honorable. Évidemment, on pourrait dire ben Lens, ça aurait dû passer. Peut-être que Toulouse, ça aurait pu passer. Mais en fait, ce que je veux dire, quand je vois Toulouse, je me dis que j'ai pas grand-chose à reprocher à Toulouse, qui a battu Liverpool en poule et qui, hier, pouvait quand même sortir Benfica, ce qui n'est pas rien. Donc, globalement, voilà, allez, peut-être si on est un peu. On pourrait dire il en manque un. Mais globalement, 3 sur 6, il ne faut pas oublier l'année dernière, par exemple, où on en était après les 8e.
Ouais, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas se contenter de peu. Je pense que Toulouse avait la place. Alors, effectivement, c'est difficile d'en vouloir à Toulouse, qui a une expérience européenne qui est très maigre, notamment face à Benfica, qui est un vainqueur de Coupe d'Europe. Je pense qu'il y avait la place. Et je pense que finalement, ce bilan-là, si on prend la big picture, c'est aussi les conséquences de l'instabilité constante qu'il y a chez les clubs français. Et finalement, Lens paye un peu ça. Est-ce que Lens, avec un Seko Fofana, avec un Openda, en serait là? Il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait une phase de groupe de Ligue des Champions qui était plutôt encourageante au début, en tout cas pour Lens. Là, se faire sortir par Fribourg, je trouve ça un petit peu dur. Toulouse, il y avait la place, mais encore une fois, on ne pouvait pas en vouloir à Toulouse. Comment en vouloir à Rennes de tomber face à l'AC Milan, qui a une expérience européenne qui est énormissime? Mais quand même, je pense qu'il ne faut pas s'en contenter. Faut pas. C'est une bonne chose d'avoir encore 3 clubs en Coupe d'Europe. Mais je pense qu'il ne faut pas s'en contenter. Et il faut se dire qu'avec un petit peu plus de stabilité et de suite dans les idées, peut-être qu'on aurait pu en avoir 4, voire 5.
Ouais. Après, alors ce n'est pas tellement de se contenter de peu. C'est d'être, je pense, réaliste parce que tu as fait le constat. C'est-à-dire, tu parles d'instabilité, tu parles de Lens. Qui, comme tout club qui arrive à ce niveau-là, est un peu tué par son succès, même si ils ont récupéré Wai, même si, encore une fois, il y a une première phase de Ligue des Champions qui est plutôt réussie quand même, parce que on peut... T'as raison, on pourrait dire, bah oui, on peut voir le verre à moitié plein, moi j'ai envie de le voir à moitié vide ou à moitié plein, moi j'ai envie de le voir à moitié plein pour eux. Après, Fribourg, on peut se dire aussi, est-ce que le 8e de la Bundesliga est moins fort que Lens? Je sais pas, tu vois. Donc, mais moi, c'est le scénario qui me fait regretter. Et après, pour ce qui est Toulouse, ouais, Toulouse, bah, s'ils sortent Benfica, c'est super exploit. Ils avaient sorti Naples de Maradona en 86 ou 87, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, tu as un exploit. Mais je trouve que, vu ce qu'on a eu l'année dernière, Et vu la situation actuelle du football français, c'est un petit marasme, mais ça tombe un peu à point nommé. Si on pouvait avoir, imaginons que Marseille qui va jouer, Villarreal d'ailleurs, on peut le dire, Villarreal de Marcelino, ça c'est fantastique. Marcelino qui est sans doute, je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui a le moins envie de revenir au Vélodrome, à part Fabio Grosso. Oui, ça va être incroyable. Et Lille, c'est Sturmgrass.
Tout à fait.
Voilà. Et le PSG, si ça passe à Real, Sociedad, potentiellement, on peut imaginer peut-être un quart contre un petit PSV ou un petit Dortmund. Enfin voilà, encore une fois, on verra à la fin, mais quand on voit la situation l'année dernière avec Nice seul en quart de finale, c'est quand même mieux. Et je ne suis pas en train de dire que ça fait un trend.
C'est quand même mieux, mais ça ne garantit pas que les prochaines années, on aura aussi bien.
Mais ça ne garantit surtout. Mais c'est pour ça que je dis, je pense que. Ils sont à leur place. C'est presque la place normale pour le football français, ça.
Parce que quand on compare, par exemple, aux Néerlandais, l'Ajax, le PSV, alors que l'Ajax vit quand même une saison qui est très difficile, est encore là. Le PSV est en huitième de finale et pas encore envisagé l'écart. On peut comparer au championnat portugais aussi, qui a encore ses trois principaux représentants.
Ouais.
Je pense que je préférerais ça, avoir des clubs s'ils ne vont pas beaucoup plus loin que des clubs français, sont au moins des garanties.
Mais après, la question de fond derrière ça, est-ce que je n'assumerais pas de dire que la Ligue 1 est plus forte que le championnat portugais, le championnat néerlandais ?
C'est vrai.
C'est ça aussi. Donc voilà, je ne suis pas certain que... Et j'en suis même... Bon, je ne suis pas certain, ça veut dire que je n'y crois pas. La fameuse saucisse du top 5 européen, il faut arrêter que ça, parce qu'on ressort ça encore une fois cette année, parce qu'on va avoir trois clubs en... Peut-être, si ça roule bien pour le PSG, peut-être un quart, peut-être une demi, peut-être plus loin... Peut-être, on ne sait jamais, en Europa League Conférence ou même l'OM, peut-être qu'on aura trois clubs en quart. Et ce sera formidable comparé à l'année dernière. Mais comme tu dis, de toute façon, ça ne dira rien de la suite parce qu'il y a trop d'incertitudes. Déjà, d'incertitudes dans les clubs. Parce que Marseille aura réussi ça avec Jean-Louis Gasset qui sera sûrement plus aux commandes. Fonseca, on verra. Luis Enrique, a priori, il sera là, mais il y aura la reconstruction au PSG. Surtout,
Fonseca, il sera peut-être encore là, mais dans un autre club.
Voilà. Et les droits TV, on ne sait pas comment ils vont tomber. Donc... Et il y a CVC, donc voilà, encore une fois, là, c'est juste de dire, je pense, voilà, ils sont à une place, à mes yeux, plus raisonnable et plus normale. L'année dernière, c'était catastrophique, mais presque par l'absurde. Disons que c'est pas mal, voilà, et que je sais pas, encore une fois, je suis d'accord avec toi, je sais pas ce qu'on peut bâtir sur ça, mais au moins, ils sont là, ils vont sauver leur cinquième place. Et je suis un peu bavard, mais je finis là-dessus. Souvenez-vous de la réforme de la Ligue des Champions, la précédente, en 2016. Quand quatre pays ont envoyé trois clubs en Ligue des Champions automatiquement et qu'on disait, parce que maintenant ça paraît naturel, mais à l'époque, regardez ce qu'on écrivait, ce qu'on disait, l'Italie, on se disait, dis donc, sympa l'Italie, ils ont été rattrapés par le col, et ben, il valait mieux être dans ce wagon-là, parce que c'est le wagon qui rapporte de gros points, parce qu'il y avait beaucoup de clubs en Ligue des Champions. Donc on peut se réjouir que la France, techniquement, garde cette cinquième place et soit dans le groupe des pays qui vont en envoyer quatre en Ligue des Champions, parce que si vous êtes un peu performant, vous marquerez plus de points.
Je t'ai connu plus exigeant, Maxime, notamment avec des équipes que tu manages.
Je suis magnanime.
On rappelle quand même le calendrier, on l'a dit, mais un petit peu pêle-mêle. Donc il y a le match retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions. Marseille qui, dans un premier temps, va accueillir Villarreal, le Villarreal de Marcelino qui ne se porte pas beaucoup mieux que l'Olympique de Marseille en Ligue 1 en Espagne. Match retour donc à Villarreal. Et puis pour Lille, Sturmgrass. Avec le match retour à Lille. Et ça, ce sera les 7 et 14 mars prochains.
J'aimerais faire partie d'un groupe de supporters de l'OM et plancher sur les banderoles.
Oui, j'aimerais pas être Marseille, non, c'est sûr.
Mais après, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à... Enfin, c'est pas à lui reprocher. Si, ça te fait suer pendant l'été. Et avoir des matchs indigents, je crois qu'il en a joué 3 au Vélodrome en championnat. Et peut-être,
Je ne suis pas sûr qu'il lui reproche plus ça que véritablement la démission, finalement.
Ah ouais, ouais. Ouais, mais
c'est un bon sujet.
Mais c'est ce qu'il voulait. Donc, puis c'était la meilleure. C'est bizarre de dire ça, mais oui. Bon, la greffe prenait pas en santé. Enfin, on sentait que ça n'irait pas. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, je me demande comment il va être accueilli. Et j'ai hâte de voir des banderoles. J'espère qu'elles seront pas sympas, mais un peu marrantes. Voilà.
Troisième sujet, Maxime. Il concerne les arbitres. Avec cette information délivrée par l'équipe cette semaine. La sonorisation des arbitres va arriver au printemps déjà dans une phase de test en D1 Arkema. Précision de taille, il ne s'agira de sonorisation uniquement sur les actions litigieuses qui entraînent des visionnages d'images. Donc on est dans un cas très précis, mais on peut imaginer, et de toute façon c'est une volonté de la DTA, que ce système-là soit élargi ensuite à la Ligue 1 et ensuite à beaucoup plus de phases de jeu, d'actions de jeu. Ce qui amène notre question, Maxime, est-ce que c'est une bonne idée de sonoriser les arbitres, d'abord sur ce cas particulier des actions revisionnées à la VAR?
Alors, je vais te faire une réponse en deux temps, parce que à la base, moi, je suis plutôt pour, enfin, de loin, quand on en parlait, la sonorisation des arbitres, parce que ça permet de tout entendre, et notamment les joueurs. Et je pense que dans ce cadre-là, au niveau de la sérénité sur le terrain, ça peut aider. Parce qu'un joueur qui ira insulter un arbitre ou balancer une saloperie, voilà, on l'entendrait. Et on entendrait aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, l'arbitre, la manière dont il parle aux joueurs. Parce que ça, encore une fois, on l'a beaucoup reproché aux arbitres français d'être des Lucky Luke et un peu ou des généraux. Et quand vous comparez aux arbitres anglais qui ont une approche beaucoup plus souple, je pense que ça tend aussi la personne que vous avez en face. Donc peut-être que je pense que d'avoir les micros, ça peut aider à pacifier le terrain maintenant. L'idée de donner des micros aux arbitres juste sur les actions litigieuses, je pense que c'est une immense connerie. Pourquoi ? Ah. Quel est le but de la technologie dans le football ? On va repartir de la VAR, parce que tout ça part de la VAR, puisque c'est lié à ça. C'est techniquement d'aider le corps arbitral, aider à quoi ? À être meilleur. Et qui dit meilleur dit moins faire d'erreurs. L'erreur est humaine, plus juste. Ça a été accepté. Depuis la nuit des temps, la main de Maradona, tout ce que vous voulez, la main de Vata, etc. C'est des crève-cœur, mais c'est ainsi, c'est aussi le football qui, il faut le rappeler, est très compliqué à arbitrer. Je ne vais pas refaire mon laïus sur le hors-jeu, mais le hors-jeu est une règle qui existe dans le football, qui est une règle majeure du football, qui est humainement impossible à arbitrer. On ne peut pas avoir l'œil sur le ballon qui est à 25 mètres à gauche et la ligne. Donc au fond, c'est au fil du feeling. Donc déjà, à la base, il y a une faille humaine. Aider l'arbitre, ça va être quoi ? Ça va être donc de le montrer les images, comme on le voit depuis quelques années. Est-ce que ça marche ? Ça marche parfois, mais il y a de la discussion parce que bah, des fois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, c'est d'autant plus révoltant parce qu'on dit qu'il y a de la technologie et qu'on oublie que ce sont toujours des humains qui jugent. Et qui dit humain dit un biais, ce n'est pas de la malhonnêteté, hein, c'est un biais d'analyse.
Si c'est on de se l'interprétation. C'est
l'interprétation, si on se met tous les deux là avec quatre actions différentes, on n'aura peut-être pas la même grille de lecture. Et c'est déjà le problème vient de là. Et le problème, je vais vous le dire. Si vous prenez les actions des derniers matchs, prenez Nice qui était outré par l'arbitrage contre Lyon, il me semble, oui. River, etc. Ça ne va pas empêcher l'arbitre de se tromper. La différence, c'est qu'il va passer pour un devant 40 000 personnes en disant « il n'y a pas de contact, il n'y a pas faute », alors que 200, 300, 400 000 personnes devant leur télé, voire plus sur un très très gros match, ont vu la faute. Donc en gros, c'est problématique. Et le problème aussi, c'est que ce message-là va s'adresser au public. Et c'est pas ça qui va rendre la sérénité dans les tribunes.
En sachant, alors on sait qu'il y a déjà beaucoup de pression sur les arbitres, surtout en ce moment. Là, on va leur demander de se justifier à chaud.
Ouais.
Alors qu'un arbitre est finalement un homme comme un autre, c'est-à-dire qu'il a parfois des phases où il est moins lucide que d'autres.
Oui. Ben non.
Et que finalement, ce qui avait plutôt bien fonctionné ces derniers mois, ces derniers temps, c'est quand les arbitres venaient s'exprimer après un match, à froid, avec un petit peu de recul, parfois en ayant revu certaines images, pour mieux justifier leurs décisions. Là, on va remettre une charge supplémentaire sur les arbitres en sachant déjà qu'ils ont beaucoup de mal à supporter la charge qu'il a leur. Et puis si on prend deux exemples très précis et très récents aussi, prenons l'exemple du match de Reims-Lens, avec ce tag d'Okumu sur Frankowski, où Aiz dit « je ne vois pas comment l'arbitre, en revoyant les images, ne peut pas mettre un rouge à Okumu ». On était à peu près tous d'accord avec l'entraîneur lensois. Qu'est-ce qui se serait passé là si l'arbitre avait eu un micro et qu'il avait dû justifier cette décision ?
Il va justifier une erreur.
Voilà.
Ouais, ce qui est encore plus ridicule.
Donc je pense qu'on ajoute un problème au problème, en sachant que le problème originel, c'est que derrière la VAR, il y a un homme et qu'un homme, c'est de l'interprétation. Ce n'est pas binaire. Sur ce que tu disais sur le hors-jeu, le VAR n'est pas parfait, mais au moins, il a le mérite de dire c'est oui ou c'est non.
Oui, mais sauf que...
Même si à la base, ça ne devrait pas être comme
c'est
ça.
C'est une image vidéo, 24 images par seconde, et il manque des moments. Donc on n'est jamais sûr que la dernière image avant le lâcher de ballon soit exactement le bon moment où le ballon est lâché pour le coup.
Je suis tout à fait d'accord, mais au moins on a quelque chose pour trancher.
Ouais, mais c'est pas complètement juste. Mais t'as raison. Enfin, au moins tu peux être... En fait, moi, la seule technologie qui est binaire et qui marche, c'est la ligne but. La goal line, ouais. C'est ça. Le ballon est rentré ou pas ? T'as un capteur, point barre. Et là, il n'y a pas d'interprétation. Tu peux pas dire, ah ouais, mais on dirait. Bah non, on dirait pas, le ballon est passé. Voilà. Le problème, c'est que tout le reste est sujet à interprétation. Et là, c'est vraiment le mieux et l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on rationaliserait tout. Quand il y a eu la goal line, c'est parti du but de la frappe de Lampard contre l'Allemagne en 2010 en Coupe du Monde. où le ballon passe d'un mètre derrière et qu'il ne voit pas le but et que voilà. Là, on peut dire, ouais, ok, il y a une vraie solution à un vrai problème. Là, il y a des vrais problèmes, c'est-à-dire des erreurs d'arbitrage, ce qui arrive, ce qui est toujours arrivé, mais il n'y a pas de vraie solution. Parce que la VAR, en fait, le problème, c'est que la VAR, maintenant, elle va régler, d'ailleurs, il faudrait regarder, c'est même pas, on ne peut même pas calculer ça, elle va régler peut-être 70% des problèmes, mais les 30% restants sont d'autant plus invivables et injustes oui. qu'ils existent encore et où. Que ce que disait River, c'est que l'arbitre ne va pas regarder les images. Il dit mais pourquoi là il y va et pourquoi là il n'y va pas.
Et cette injustice-là ne sera pas réglée par la sonorisation dans le cas précis des actions litigieuses, parce qu'on peut redonner la déclaration exacte d'Eric Borghini, le président de la Commission fédérale des arbitres, chez nos confrères de l'équipe, où il dit les micros seraient uniquement branchés pour les actions les plus litigieuses. Quand l'arbitre les revisionne, de notre côté, on est favorable à une sonorisation permanente. Donc dans ce premier cas. Bah, les actions litigieuses, c'est une de l'interprétation. Et surtout, ça ne veut pas dire que sur toutes les actions litigieuses, il y aura intervention du VAR et donc revisionnage des images. Donc, entre guillemets, on ne s'attaque pas au premier problème qui est d'avoir une uniformité sur toutes les décisions. Et de toute façon, cette uniformité-là ne sera pas possible tant que ce sera un homme qui décidera.
Il va vite en besogne, Borghini.
Ouais.
C'est pas un an.
Oui, mais ce qui est sûr, ce qu'on peut dire aussi...
Il ne l'a pas.
Ah, ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai. Ouais,
bref,
pas mal.
Bref.
Non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la DTA, donc l'arbitrage français, est favorable depuis plusieurs années maintenant à accélérer un petit peu les choses sur les communications des arbitres, sur la sonorisation des arbitres aussi, mais que c'est la FIFA qui met le frein à main.
Alors, je vous entends, je vous imagine devant... avec votre casque en train de nous écouter, en train de dire « Oui, mais dans le sport américain, il y a de la sonorisation, ça marche. » Alors, il y a deux choses sur la sonorisation. Un, elle évite pas les erreurs, encore une fois, même quand il y a la sonorisation. Vous prenez le football américain, où l'arbitre va annoncer en direct une décision à tout le stade qui l'entend. En NBA, après un vidéo review, il regarde les images pendant des plombes, et à un moment, ils disent « Bon, faute, pas faute, etc. » Mais ça n'empêche pas l'erreur. Et la différence, c'est que, je le dis toujours, le public... de la NBA et de la NFL, n'est pas le même que dans un stade de foot. Dans un stade de foot un peu chaud, vous avez trois décisions pourries d'un arbitre, ça peut mettre le bazar, voilà, tout simplement. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que pour la sérénité, encore une fois, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Vous prenez un Marseille-PSG, dernière minute, Marseille mène 1-0, penalty ou pas pour Mbappé, l'arbitre se plante, il donne penalty ou vice-versa.
Alors, a priori, Mbappé ne sera plus là.
Non, pour le prochain.
Oui, mais enfin, il y aura pas l'arbitre.
Ah oui, c'est vrai. Oui, bon bref. Ouais. Ah oui, oui, non, mais voilà. Bon bref. En tout cas, pour la sérénité des débats, je pense que c'est pas une bonne chose. Moi, ce que tu as dit là et ce qui est très vrai, je pense que pour en revenir à la NBA, il y a eu un cas récemment, un match Knicks Rockets avec une faute inexistante qui était sifflée en toute fin de match, qui a coûté la victoire aux Knicks. En fait, la NBA a une habitude, c'est qu'il y a un review après chaque journée. De toutes les actions litigieuses dans les deux dernières minutes. Alors le foot, on l'étendrait à plus, évidemment. Et la NBA assume, il y a un corps au-dessus des arbitres qui assume, bah là, il y a une erreur, là, il n'y a pas d'erreur, là, il y a une erreur. Et c'est très bien parce qu'en fait, à chaud, ça ne sert à rien. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, bah là, il n'y a pas contact, sauf que tout le monde a vu qu'il y avait faute. Donc à part énerver tout le monde, ça ne changera rien du tout. Alors que justement, après un match, c'est fait. De toute façon, on ne revient pas sur le résultat. On explique ça et puis après, on peut... j'allais dire sanctionner ou noter les arbitres différemment. Là, je pense qu'il y a besoin de pédagogie, d'un arbitre qui vient, mais à froid. Tout ce qui est fait à chaud, généralement, n'est pas bon. Donc là, pour les arbitres, c'est aussi valable.
Oui, et je pense qu'avant la pédagogie, il faudrait éclaircir
Les règles,
conditions.
Et être sûr que tout le monde connaît les règles. Sur les mains, par exemple, j'en suis pas sûr.
Oui, notamment les arbitres.
Oui, notamment les arbitres.
Bref, il y a beaucoup de travail. On va suivre évidemment tout ça de très près. On devrait l'apercevoir l'année prochaine en Ligue 1 possiblement au plus tôt, ou en tout cas la saison suivante. Et on suivra tout ça de très près et on aura l'occasion d'en reparler.
Ça peut faire des séquences très drôles ou pas.
Oui, ou pas.
Je pense qu'il ne faut pas toujours tout entendre, mais en l'occurrence, si ça peut aider, voilà, encore une fois, peut-être que voilà, la sonorisation à plein temps, ça peut aider l'arbitre à gagner en sérénité. Parce qu'il se dit, tout ce que je dis est entendu, mais tout ce qu'on me dit est aussi entendu. Voilà, ça, c'est important. Mais encore une fois, on les met plus en difficulté. Ouais. Je suis étonné d'ailleurs qu'ils soient pour. Que les présidents de club soient pour, ils sont bien pour CVC, donc ça ne m'étonne pas, ils disent que ça va tout arranger, mais ça ne change rien du tout. Mais en tout cas, qu'ils ne voient pas ce que ça peut engendrer comme problème, et surtout que ça ne va pas régler leur problème, c'est ça. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Bref.
On va finir là-dessus, Maxime, ouais. Sur cette incompréhension. On rappelle que le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC et vous retrouvez tous les podcasts foot de Eurosport. On rappelle aussi que les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver en vidéo sur Eurosport.fr.
Si on en trouve.
Si on en trouve.
C'est, après, c'est dur. Là, on finit l'émission, on s'enferme pendant 4-5 heures dans une salle et on essaie de trouver les meilleurs moments.
Ouais, mais quand c'est moi, on les trouve plus facilement, j'ai l'impression.
Bah, spoiler, c'est souvent le début des sujets. Hein. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas trop de surprises.
On rappelle aussi l'information importante. À partir de la semaine prochaine, a priori, sauf nouveau rebondissement, Martin Mosnier sera de retour dans cette émission. Il ne nous a pas manqué. Il vous a certainement manqué. Il sera là avec toi, Maxime ?
Ouais, je serai là. Écoute, on va pouvoir parler. Il est en vacances, en fait. Voilà, ça fait 4 semaines. Bon. Ouais. Je sais pas quel contrat il a signé, lui.
Bah, je crois que c'est toi qui l'as signé. Donc,
Ah non. Non, c'était pas moi. Oui, non, moi, je l'aurais jamais signé.
Il va être content.
En tout cas, pas à ces conditions-là.
Voilà, on va finir sur ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Écoutez, on se retrouve
La semaine prochaine. Seb à la réalisation. C'est
oui,
petit.
On remercie. Et Marco Popovic.
Marco Popovic, qui a. Tu connais son slogan ?
Non.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ah, voilà. C'est vrai ?
C'est vrai. Mmh. À la semaine prochaine.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.